voilà, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau parcours des samedis de la Bible. Donc les samedis de la Bible, c'est un nom un peu large et imprécis pour parler de ce que sera ce parcours, qui est un parcours soit de découverte, d'introduction, soit d'approfondissement de la Bible. C'est ce que je disais tout à l'heure à des personnes qui sont arrivées un peu en avance. C'est-à-dire, j'espère que les diverses propositions qu'il y aura dans une matinée permettront à des gens qui découvrent de s'y retrouver et à des gens qui connaissent déjà un peu la Bible et qui souhaitent l'approfondir, d'y trouver aussi de quoi approfondir, justement. Donc, on va essayer. Et de toute façon, ça sera aussi en fonction des interactions et des questions. C'est-à-dire, s'il y a des questions un peu plus pointues sur un point ou un peu plus générales pour quelqu'un qui découvre, et bien, du coup, ça sera l'occasion non seulement pour moi de m'adapter au groupe, mais aussi peut-être aux uns et aux autres d'entendre une question ou d'une réponse à une question qu'il n'osait pas poser, peut-être, vous voyez. Donc c'est aussi 3 heures de cours, ça nécessite forcément beaucoup d'interactivité. Donc ça va être le cas pour chacune des rencontres. Bonjour. Non, je vous en prie. Voilà. Donc, c'est des 9 samedis de 3 heures, vous savez. Et cette année, c'est sur l'Ancien Testament, c'est-à-dire que c'est un parcours qui est prévu sur 2 années, une année Ancien Testament, une année Nouveau Testament, mais libre à chacun de n'en suivre qu'une sur les deux ou les deux. Je veux dire, après, évidemment, si vous vous inscrivez pour le cours, ce n'est pas une obligation de suivre celui de l'année prochaine, évidemment. C'est juste pour dire que cette année sera consacrée à l'Ancien Testament. Mais aussi, on parlera un petit peu du Nouveau Testament, puisque la Bible se lit en symphonie, en stéréo, et que quand on étudiera des textes de la Genèse, de l'Exode, on pourra aussi avoir un temps, on aura un temps pour entendre un peu les échos qu'il y a avec le Nouveau Testament. Comment le Nouveau Testament, qui s'inscrit dont les auteurs, dont les acteurs et les auteurs s'inscrivent dans les écritures juives, la Bible hébraïque, comment cela fait écho forcément. Et il y en a énormément de liens et d'échos, donc on en évoquera quelques-uns, mais en tout cas c'est une dimension qui sera présente. Un autre point un peu général avant de rentrer dans le vif du sujet, c'est que, ainsi que je l'ai dit à certains d'entre vous, vous pouvez, si vous n'êtes pas encore inscrit, vous pouvez vous inscrire après le premier cours pour voir. C'est-à-dire, vous pouvez rester aujourd'hui, ça, je vous rassure déjà. Non, plus sérieusement, voir si le programme, la pédagogie prévue, voir si ça correspond à votre attente et vous inscrire seulement la semaine prochaine pour la rencontre de novembre. Il y a toujours un cours possible pour voir si ça correspond bien. Voilà. Alors, avant de faire une première présentation, non seulement de la Bible, mais aussi du programme d'année, c'est le programme pour aujourd'hui, présenter le programme de l'année, la pédagogie, la méthode, l'approche, mais également présentation générale de la Bible. Ça, c'est le programme pour aujourd'hui. Avant cela, peut-être on pourrait commencer un premier temps d'échange, de prise de parole des uns et des autres sur, en gros, 2 questions. Quelle est ma familiarité avec la Bible en général et l'Ancien Testament en particulier? Bon, ce n'est pas la peine de rentrer dans trop de détails, mais que j'entende un peu s'il y a cette familiarité, cette proximité, ou au contraire, c'est vraiment un univers méconnu et difficile pour vous. Donc c'est bien que, voilà, vous, si vous le souhaitez, évidemment, vous puissiez l'exprimer. Et du coup, le deuxième point qui va avec, c'est qu'est-ce que vous attendez de ce cours, finalement. Voilà. Donc, à vous la parole pour un premier temps d'échange. sur votre familiarité ou non avec la Bible et ce que vous attendez du cours, en fait.
Moi, je commence.
Oui, vas-y.
Je m'appelle Véronique. Au niveau de la Bible, c'est un petit peu connu, mais voilà, c'est toujours à découvrir et je souhaiterais plus d'approfondissement.
D'accord, d'accord. Attends, je mets sur pause parce que... Jean... Donc, tout le monde a le document sur le programme d'année. Il y a 9 samedis. Alors, je vous donnerai dans un deuxième temps le déroulé de chaque matinée. Pour l'instant, c'est juste les thèmes de chaque matinée. Donc, aujourd'hui, nous aurons la présentation d'ensemble de la Bible, comment elle est organisée, comment elle est composée, quelques repères historiques, quelques repères géographiques. Et puis, déjà un premier temps sur comment lire la Bible, comment lire un texte, comment l'interpréter et lire un texte. Voilà. Après, du 18 novembre au 25 mai, chaque mois, chaque samedi, sera consacré à soit un corpus, ce qu'on appelle un corpus biblique, c'est-à-dire une partie de la Bible, soit, pour ce qui est de deux premières séances, une partie de la Genèse, donc plus limitée en nombre de textes, mais sur lesquels il y a beaucoup à dire. Plus précisément, le 18 novembre, nous aborderons ce qu'on appelle les récits fondateurs en Genèse 1-11, c'est-à-dire les grands récits à portée symbolique, les grands récits symboliques, donc qui ne sont pas historiques, ni scientifiques, évidemment, qui sont sur l'exploration un peu comment le texte biblique, les auteurs bibliques envisagent un peu le sens de la création et de la vie de l'homme sur la terre. Par exemple, c'est 11 chapitres où il y a le récit de la création en 7 jours, un deuxième récit de création avec le jardin d'Éden, l'histoire de Caïn et Abel, l'histoire du déluge et la tour de Babel. Donc, en une matinée, alors on n'aura pas le temps de tout lire, mais en une matinée, on essaiera de comprendre un peu le statut de ces textes, qui, une fois de plus, ne sont pas des textes à visée historique et encore moins scientifique. Donc, on les lira plutôt dans leur portée de sens, leur portée symbolique. À quoi ils ouvrent comme sens? Comment les auteurs de ces textes ont compris l'horizon dans lequel le monde, l'homme se trouve dans le monde, dans une création, voilà, avec un Dieu créateur qui entre en relation, etc., etc. Donc on en verra plus la prochaine fois. Le 16 décembre, ça sera la seconde partie de la Genèse à partir du chapitre 12, donc les patriarches et matriarches, parce qu'elles sont trop souvent oubliées, donc les patriarches, Abraham, Isaac, Jacob, et donc les commencements du peuple d'Israël, du moins tels que la Bible les raconte, à travers les pères et mères de ce peuple, à travers ces personnages, Abraham et Sarah, Isaac et Rebecca, Jacob, vous savez les noms des femmes de Jacob ?
Rachel et Léa.
Ouais, bravo. Voilà, Rachel et Léa. Donc, on verra un petit peu, une fois de plus. Alors, quand je dis qu'on verra, c'est-à-dire qu'on n'aura pas le temps de tout lire, mais d'abord, à chaque fois, on lira un texte un peu à fond, parfois deux, quand ils ne seront pas trop longs, qu'on aura le temps. Mais surtout, voir un petit peu la trame d'ensemble, un plan, les grands thèmes abordés, vous voyez, éclairer un petit peu l'ensemble de, par exemple, ces chapitres 12 à 50. En janvier, nous verrons l'Exode. Donc, quand je dis l'Exode, c'est au sens large, c'est-à-dire pas seulement le livre de l'Exode, mais tout le grand récit de l'Exode qui se décline dans le livre de l'Exode, le livre du Lévitique, le livre des Nombres et celui du Deutéronome. On y reviendra, hein. Je vous donne juste... Donc, vous voyez, en novembre, 11 chapitres. En décembre, presque 40, et en janvier, 4 livres. Donc on va accélérer le rythme. Non, mais voilà, on aura... Mais en même temps, c'est un seul grand récit qui couvre 4 livres. Donc on repérera les grands... Pareil, comment le livre... Comment ces livres sont organisés pour décrire, pour raconter et donner le sens de cette grande geste exodique. Et puis, en ayant un ou deux textes, en lisant un ou deux textes de façon un peu plus approfondie. En février, nous parlerons des rois d'Israël, donc la période de la monarchie, avec Saül, David, Salomon et quelques autres, mais cela étant les principaux. Et donc, on verra un petit peu les questions qui se sont posées, les jalons historiques et quelques textes majeurs de cette période. Et de ses écrits. En mars, ça sera sur les prophètes. Donc là, c'est un gros morceau. Alors, on aura déjà commencé les prophètes avec les rois, parce que dès qu'il y a des rois, il y a des prophètes. Le prophète Élie, le prophète Samuel, Nathan sont déjà présents au moment des rois. Et là, on verra plutôt les prophètes écrivains. Donc, les prophètes Isaïe, Jérémie, on regardera qu'est-ce que c'est que cette parole prophétique, cette littérature prophétique. Et on ira étudier un ou deux textes, plutôt deux, je pense, parce que la période prophétique couvre, enfin, les livres prophétiques couvrent une période assez longue. Et donc, on ira entendre deux échos de manière un peu plus précise, même si l'ensemble des prophètes seront présentés avec un peu les tonalités de chacun. Ensuite, en avril, ce sera une journée sur les psaumes. On prendra le temps de mieux découvrir ce style des psaumes, ces prières, ces chants, ces poèmes, qui sont au cœur de la vie liturgique, aussi bien dans le judaïsme que dans le christianisme. Les livres de sagesse seront vus au mois de mai. Donc les livres de sagesse sont un peu moins connus, et c'est dommage parce qu'il y a vraiment des merveilles. Ce sont des livres écrits plus tardivement, entre le 5e siècle et le 1er siècle avant notre ère, avec des grandes richesses et une réflexion, une méditation sur le mystère d'Israël, le mystère de la vie, la relation à Dieu, qui s'approfondit au fur et à mesure du temps. Et donc les livres de sagesse rendent écho de cela aussi. Et nous terminerons par une séance un peu de conclusion générale du parcours, donc un peu une synthèse générale du parcours. J'ai noté le livre de Ruth, on ne parlera pas que du livre de Ruth, mais le livre de Ruth est un livre, un tout petit livre de 4 pages, mais qui permet de revisiter l'ensemble de la Bible. Dans le livre de Ruth, il y a des échos à Abraham, à l'Exode, aux prophètes, au livre de sagesse. Donc c'est comme un condensé. C'est un livre assez tardif, et celui qui écrit ce livre, qui raconte cette histoire, il glisse énormément d'allusions à l'ensemble de la Bible. C'est ce qu'on appelle l'intertextualité. Alors, c'est un gros mot, mais vous allez voir que comme M. Jourdain, on va en faire sans le savoir, mais à longueur de temps. C'est-à-dire comment l'intertextualité. Comment les livres et les textes se font écho les uns aux autres, notamment entre Ancien et Nouveau Testament, ça c'est un point qu'on abordera, mais également à l'intérieur même de l'Ancien Testament, et pareil pour d'ailleurs à l'intérieur même de l'Ancien Testament, il y a des échos des textes entre eux, et qui sont des échos volontaires en général. Celui qui écrit le livre de Ruth, il veut montrer comment cette jeune femme étrangère qui s'appelle Ruth rejoint l'histoire d'Israël et fait écho aux Écritures depuis Abraham jusqu'aux livres plus récents, en passant par l'Exode et les prophètes. Donc, c'est pour ça que l'on prendra ce petit livre en conclusion, mais ça sera aussi une occasion de faire une synthèse de l'ensemble du parcours. Voilà pour le programme du contenu. Qu'est-ce que... À l'intérieur maintenant, à l'intérieur de chaque matinée, comment... Alors, je vais vous dire un peu le programme qui est prévu, mais les horaires sont un peu souples. Hein. Non, ce qui n'est pas souple, c'est 9h30, Ça, ça ne bouge pas, je vous rassure. Mais à l'intérieur, voilà, ça dépendra aussi de... ce matin, je pense que je vais faire un temps de topo un peu plus long, puisque j'ai introduit aussi le parcours. Voilà. Mais en gros, si vous voulez, à 9h30 le matin, il y aura un exposé, un topo de entre 3/4 d'heure et 1 heure, ça dépendra, qui pourra être interactif avec des questions, des réactions, évidemment, hein, c'est pas parce qu'il y a marqué topo que vous n'aurez pas droit à la parole. Vous pouvez questionner à tout moment. Mais un temps de présentation du programme du jour, les prophètes, les rois, les psaumes. Voilà, je présente comment est organisé ce livre ou ces livres, quels sont les grands thèmes des prophètes, quel est le contexte historique, quels sont les échos avec d'autres textes. Bref, une présentation d'ensemble dans le contexte historique, dans le livre lui-même ou les livres, de ce que disent ces livres, ou ce livre. Voilà. Donc, pour permettre de rentrer plus dans la compréhension de la partie étudiée ce jour-là. Ensuite, il y aura un temps de lecture de texte ensemble. Lecture d'un texte biblique. Parce que lire la Bible, ce n'est pas seulement, pas d'abord même, avoir des connaissances autour du texte. C'est plonger dans la lecture. Dans la lecture, plusieurs d'entre vous ont exprimé les difficultés qu'il peut y avoir à entrer dans la lecture d'un texte biblique. C'est un univers qui, à la fois, nous est familier parce qu'on a quand même baigné dedans. La culture occidentale baigne dans ces références-là. Et en même temps, il y a un contexte historique, des expressions, des mots, des réalités culturelles qui ne sont plus les nôtres. Voilà. Donc, ça demande un peu d'explication. Il y a tout ce savoir qui est nécessaire autour du texte, mais rien ne remplace la lecture du texte. Et qui dit lecture de texte, dit un petit peu de méthode. Alors, je vous rassure, on ne va pas faire de l'exégèse de haute volée de troisième cycle. Mais par contre, je vous donnerai dès aujourd'hui une grille pour aider à la lecture et l'observation attentive d'un texte. Je précise bien, ce n'est pas pour être savant sur le texte, c'est pour être poli avec le texte. C'est-à-dire pour écouter ce qu'il dit vraiment. Et comment il le dit, c'est très important, ce temps d'écoute, d'observation attentive, parce que c'est comme dans la relation avec quelqu'un. Quand je parle avec quelqu'un, si tout de suite je l'interromps au milieu de la phrase en disant « de toute façon, je sais ce que tu vas dire », vous voyez, on n'est pas dans l'écoute attentive, dans le respect de l'autre, et on n'entend pas ce que dit l'autre, la manière dont il le dit, à quoi il fait référence... qu'est-ce qui dans son histoire ou dans sa personnalité fait qu'il réagit comme ça, on est tout de suite et vouloir tout de suite aussi lire un texte en essayant de voir tout de suite ce qu'il me dit, c'est risquer de projeter sur lui ce que je porte en moi. Et du coup, le passage par une lecture attentive, c'est pas pour être savant, c'est pour être respectueux du texte et entendre ce qu'il dit vraiment. Avant de savoir ce que le texte biblique me dit ou nous dit, ça c'est vrai pour tous les groupes bibliques, fraternités locales et autres, c'est la règle de base. Avant de savoir ce que le texte me dit ou nous dit, il faut savoir ce qu'il dit. Je peux vous donner un exemple. C'est un exemple que je donne souvent, je suis désolée pour ceux qui l'ont déjà entendu. Mais ça m'a tellement frappée, il y a quelques années, je lisais avec un groupe le texte de la Samaritaine, et une personne dans le groupe a dit « Mais moi j'ai beaucoup de mal avec Jésus qui juge cette femme, vraiment j'ai beaucoup de mal. » Et quelqu'un dans le groupe, heureusement c'était pas moi, j'étais contente, quelqu'un dans le groupe a dit « Mais où vois-tu dans le texte que Jésus juge la femme ?» On s'est tous replongés dans le texte, il n'y a pas de jugement de Jésus. Et du coup, c'est parce que quelqu'un a eu la vigilance de... Vous voyez, cette personne, bon, pour une raison ou pour une autre, elle avait cru qu'il y avait ça dans le texte. Elle avait projeté, en quelque sorte, ça dans le texte. Or, dans le texte, il n'y a pas ça. Et le groupe peut réguler ça pour qu'il y ait cette écoute véritable. Non, le texte ne dit pas cela. C'est pas pour juger la personne. Hein. On a tous le droit de faire des... Évidemment, et on le fait tous, même quand on est averti, des lectures un peu projectives. Mais vous voyez, c'est vraiment pour écouter le texte dans ce qu'il dit vraiment, dans sa façon de s'exprimer. On verra qu'il y a quelques réflexes à avoir. Je vous donnerai la grille d'études tout à l'heure, qui aide à une meilleure écoute, plus polie et respectueuse du texte, pour entendre ce qu'il dit, et dans un deuxième temps, ce qu'il me dit ou ce qu'il nous dit. C'est-à-dire que, évidemment, on lit le texte pour en être nourri, du moins dans une démarche croyante. On peut aussi le lire uniquement par curiosité intellectuelle, c'est possible aussi. Mais dans une démarche croyante, on le lit pour savoir ce qu'il me dit, ce qu'il nous dit. Mais ça sera d'autant plus riche qu'on aura d'abord écouté ce qu'il dit pour permettre l'appropriation. La visée est bien l'appropriation ou l'actualisation. Mais celle-là, elle sera d'autant plus riche qu'on aura pris le temps de la première écoute attentive. Donc, on aura un temps d'étude de texte. Après, nous aurons bien mérité une pause. J'espère avec café. Normalement, c'est prévu. Ensuite, il y aura un temps un peu différent après la pause. D'abord un temps de synthèse de ce qu'on aura fait le matin, éventuellement conclure l'étude du texte s'il y a besoin, ou revenir s'il y a des questions, un temps d'appropriation et un temps de ce que j'appelle aussi peut-être se constituer un lexique ensemble, peut-être. Tiens, j'ai vu que dans le texte de Noé, il y a l'histoire d'alliance, et puis dans l'histoire d'Abraham, il y a aussi l'alliance, et dans l'histoire de l'Exode, il y a aussi l'alliance. Qu'est-ce que tous ces textes donnent comme couleur différente au mot alliance ? Vous voyez, ce n'est pas forcément la même couleur dans le livre de la Genèse que dans le livre de l'Exode. Donc au fur et à mesure, ces notions-là, qui sont des notions clés au niveau théologique, elles prennent du relief, elles prennent des couleurs, des nuances, elles s'enrichissent. Et du coup, on pourra constituer un lexique commun sur certains points. Donc synthèse, appropriation. Ensuite, alors là, j'ai pas mis d'horaire parce que ça dépendra un petit peu des textes. Parfois, cette partie-là sera rapide, d'autres, elle sera plus approfondie. Mais il y aura un temps sur donc les échos intertextuels et notamment les liens avec le Nouveau Testament. Et l'année prochaine, ce sera les liens avec l'Ancien Testament, quand on fera à nouveau. Voilà. Par exemple, Abraham fait alliance, ou plutôt Dieu fait alliance avec Abraham. Genèse 15, ce chapitre 15 de la Genèse, il y a trois textes du Nouveau Testament qui le citent explicitement. Et ben, on ira voir ce qu'ils disent, pour écouter la Bible en stéréo. Voyez, c'est comme ça qu'il faut l'écouter. Elle est écrite comme ça, il faut la lire comme ça. Donc, il y a deux passages de Saint Paul et un de Saint Jacques qui commentent ce texte de Genèse 15. Voilà. Donc, peut-être qu'on ira voir si on choisit ce texte-là. Ensuite, toujours dans cette deuxième partie de matinée, il y aura une partie art et Bible. Donc, probablement, principalement avec des reproductions artistiques, mais ça pourrait être, pourquoi pas, peut-être aussi, je ne sais pas moi, peut-être que quand on étudiera l'Exode, on écoutera du négro spiritual. Bon, je n'ai pas encore tout à fait décidé. En tout cas, comment est-ce que la culture, et notamment l'art, ça peut être aussi la littérature, ça peut être la poésie, voilà. Comment l'art revisite ces textes, en est imprégné, et donc je vois qu'il y a plusieurs personnes compétentes dans l'histoire de l'art, donc c'est... Non, mais c'est bien. Ça sera aussi, parce que tout ce que je vous évoque là, ces différents temps, il y aura évidemment des exposés et des topos, je l'ai dit, mais ça pourrait être aussi, au moment d'étude des textes, ça sera interactif, et au moment de l'appropriation des échos et de la dimension artistique, ça ça le sera également. Donc, ça sera aussi quelque chose qu'on construira ensemble. Et enfin, on terminera. Il faudra toujours que je garde 5 minutes. Alors, il y aura toujours la possibilité de poser des questions, je viens de le dire. Je ne le précise pas parce que c'est une évidence. Et en fin de matinée, je vous proposerai, je vous ferai une proposition de lecture pour préparer le prochain cours. Après, à chacun de voir selon le temps dont il dispose. Il n'y aura pas d'interro écrite. Hein. C'est juste pour préparer, parce que par exemple, pour préparer la séquence sur les prophètes, c'est un corpus tellement large que je ne vais pas vous demander de tout lire. Si vous avez le temps de tout lire, très bien. Mais je vous ferai des propositions sélectives pour avoir, par exemple, différentes facettes de la prophétie en Israël. Je vous conseillerai 5-6 textes qui vous donneront une image un peu large de différentes modalités prophétiques pour préparer le cours d'après, que quand vous veniez au cours d'après, vous ayez déjà un peu plongé dans les textes. Voilà pour un petit peu ce qui est prévu. Alors, pour aujourd'hui, alors j'ai prévu, si on a le temps, oui, on aura le temps, j'ai prévu un petit temps de projection d'œuvres d'art tout à l'heure, mais dans un premier temps, on pourrait commencer par réagir sur cette photo que j'ai prise à l'abbaye de Boscodon. Je ne sais pas si vous connaissez l'abbaye de Boscodon, qui est dans les Hautes-Alpes, vers Gap, et qui est maintenant animée et habitée par une communauté de dominicains. Et il y a cette très belle sculpture, je ne sais pas comment l'appeler, et qui représente une Bible. Et donc, alors la photo, la reproduction de la photo n'est pas d'une qualité excellente, mais quand même, en gros, si vous voulez, il y a la pierre derrière, et puis il y a du bâtiment, puis il y a le bois et du métal. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous voyez, vous, qu'est-ce que ça vous évoque concernant la Bible dans cette sculpture ?
L'Esprit Saint.
Oui. Voilà. Pour ce qui est des traductions, j'avais un enseignant à la Cato de Lyon qui disait la meilleure traduction, la meilleure Bible, c'est celle que vous avez chez vous. Voilà. À condition de l'ouvrir. Voilà. Plus sérieusement, on a la chance en français de disposer de plusieurs très bonnes traductions. J'en citerai 4. La Bible de Jérusalem est une très bonne traduction. La Tob, traduction écuménique de la Bible également. La Nouvelle Bible Second, qui est une Bible d'études plutôt pour le canon protestant. Donc il y aura des livres qui sont dans le canon catholique, j'y reviendrai tout à l'heure, qui ne sont pas dans la Nouvelle Bible Second. Mais pour ce qui est des livres qu'on a en commun, c'est une très bonne Bible d'études. Et enfin, je termine par celle que je pense être, et je ne suis pas la seule à le penser, la meilleure traduction, qui est la traduction Hostie. Voilà. Mais les 4 que je citais sont excellentes. Si vous avez la Bible de Jérusalem, la Tob, la Nouvelle Bible Second ou Hostie, les 4 sont excellentes, il n'y a pas besoin d'en changer.
La dernière, vous dites ?
Hostie. C'est un chanoine Hostie qui a traduit la Bible. L'intérêt de cette traduction, le grand intérêt de cette traduction, c'est que comme elle est traduite par... Alors, parfois c'est juste le chanoine Hostie, parfois il y a Hostie et Trinqué, ça dépend des versions. Mais comme elle est traduite par une seule personne ou un binôme, en tout cas, il y a une grande unité dans la traduction. Un même mot dans la Genèse... Dans l'Exode, dans les prophètes, un même mot écrit en hébreu va être traduit de la même façon autant que possible. Ce n'est pas toujours possible. Ça dépend des contextes, parfois. Il y a une unité qui est, et une fidélité au texte hébreu, voilà, qui est très grande. L'inconvénient de la Bible Hostie, c'est que... Alors, la traduction est excellente. Après, si vous avez une Bible Hostie, les notes de bas de page, quand c'est des notes sur... un mot hébreu ou grec, c'est très intéressant, toujours, très bien. Quand c'est des notes historiques sur ce qui supposait être la rédaction de ce livre, depuis que Hostie a traduit la Bible, les choses ont changé, ont évolué, des découvertes sur l'histoire de la rédaction. Donc, il faut les prendre plus avec prudence. Mais, parce qu'en fait, les notes n'ont pas été révisées. Voilà. Ceci dit, il y a beaucoup de notes sur le sens des mots, le sens des expressions, le sens théologique. Les notes, la majeure partie des notes, demeurent très intéressantes. C'est juste celles relatives les hypothèses relatives à la rédaction qu'il faut prendre avec prudence parce que c'est un peu daté. Mais sinon, ça reste une excellente traduction. Au niveau du texte, c'est probablement la meilleure. Sinon, vous avez la TOB, traduction œcuménique de la Bible, la BJ, Bible de Jérusalem.
Elle a été traduite par l'école
Jérusalem. Oui, à l'origine, c'est les Dominicains de l'école biblique de Jérusalem. Voilà. Donc, celle-là. En fait, ces quatre-là sont excellentes. Voilà. Bon, après, vous avez aussi la Bible en français courant, que vous avez, par exemple, dans The Bible. Donc, c'est bien pour découvrir le texte biblique, c'est très bien. Pour une étude, parfois, c'est un peu léger. Mais pour découvrir si vous avez une Bible en français courant, c'est très bien aussi.
Shoraki, tu ne dis pas ?
Non, je ne dis pas Shoraki. Shoraki, c'est quelqu'un qui... Donc, il a traduit l'Ancien Testament, le Nouveau Testament et le Coran. Il a traduit tous les grands livres sacrés. Et pour ce qui est de la Bible, en tout cas l'Ancien Testament, il essaye d'être très proche de l'hébreu. Donc, c'est intéressant d'entendre, et de manière parfois un peu rugueuse. Donc, c'est intéressant parce que ça permet d'entendre quelque chose de très proche de l'hébreu, qui est un peu déroutant, un peu décapant, mais parfois, parfois très, très intéressant. Mais, ceci dit, parfois, il faut traduire du Shoraki en français, donc c'est un peu compliqué, quoi. Ça dépend des passages. C'est toujours bien... Quand vous avez une Bible Shoraki, ça peut vous aider à compléter une traduction en français plus fluide, je dirais, qu'on a. Parce que ça peut donner un peu une couleur, ça peut donner un peu le sens originel. Donc c'est bien. Mais juste la Bible Shoraki, je trouve que c'est difficile de lire le texte. Quoi. Voilà. Moi, c'est une Bible en second, en plus d'une autre, il me semble. Mais toute seule, Shoraki, moi, je trouve qu'elle n'est pas très accessible et parfois, on ne voit pas très bien. Bon, enfin, voilà.
J'ai vu qu'il y avait des parts des livres de la Bible qui avaient été commentés par Docteur Noss, je pense que ça doit être un pasteur, enfin je sais pas, un théologien protestant, je ne sais pas ce que vous en pensez.
Celui-là, je ne le connais pas.
Oui.
Après, il y a plein de commentaires. Des traductions commentées, il y en a plein.
Ouais.
Je ne les connais pas toutes, donc je n'ai pas d'avis sur ça, que je ne connais pas.
D'accord.
Moi, je pense que c'est mieux d'avoir une de ces quatre traductions et vous servir des notes. La nouvelle Bible second, la version étude, c'est vraiment excellent.
Ouais.
Bon, après, c'est une Bible en milieu protestant, et du coup, c'est une Bible dans laquelle il n'y a pas tous les livres. Par exemple, le livre de la sagesse, le livre de Tobie, ne sont pas reconnus dans le canon protestant, donc vous ne les aurez pas. Mais à part ça, ça demeure une très bonne Bible. Moi, je m'en sers beaucoup. Voilà. Donc ça, c'est sur les traductions, ça va ? Est-ce que sur la présentation générale de l'année et de chaque matinée, est-ce que vous avez des questions ?
Oui. Il n'y a pas Job, il n'y a pas tout. Est-ce que c'est une question de temps ?
Non, mais Job, ça fait partie des livres de sagesse. On en parlera dans les livres de sagesse de Job.
Et les autres, Esther ?
Alors, j'évoquerai Esther, mais effectivement, c'est une question de temps. C'est une question de temps. J'ai hésité dans la dernière séance à mettre Esther, Tobie, Ruth, mais
on n'a pas le temps.
On n'a pas le temps parce que déjà là, on va pas mal survoler. Et en même temps, on va essayer à la fois de survoler, mais dans le bon sens du terme, d'avoir une vue d'ensemble, et à la fois de plonger en plus en profondeur sur un texte. Mais Job, on en parlera dans les livres de sagesse, c'est important. Parce que, par exemple, sur la question de la souffrance, les livres de sagesse, ils évoluent. Dans le livre des Proverbes, on n'a pas la même réponse que dans Job. Donc on regardera dans la présentation d'ensemble et du coup on verra la spécificité de Job. Après, il y a d'autres cours au CTM. Hein. Vous voyez, par exemple, Benoît Deschamps, il fait un cours depuis 3 ans sur la première lettre aux Corinthiens. Donc ça fait 3 ans qu'il est sur la première lettre aux Corinthiens ou sur l'évangile de Marc. Voilà, moi les mardis je fais un cours sur les rois d'Israël, il y a certains textes, et pendant 20 heures on ne fait que lire des textes autour de David, Salomon, voilà, donc là on va un peu plus au fond, mais si on veut avoir une vue d'ensemble, on peut pas, mais on pourra creuser à d'autres occasions. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur le programme et ce qui est prévu pour chaque matinée? Est-ce que ça semble correspondre un peu à ce que vous souhaitiez? Bon. Alors, aujourd'hui, on va faire une présentation d'ensemble de la Bible. J'espère qu'on aura quand même le temps. J'ai prévu un texte à étudier ensemble sur la présentation de la Bible. Mais on va d'abord... Je fais... Oui, bien sûr. Je fais d'abord un exposé sur la présentation générale, l'ensemble de la Bible. Donc, d'abord, on dit la Bible. Mais qu'est-ce qu'on dit déjà en disant ce mot-là? Vous le savez, sans doute, ça vient du grec « ta biblia ». Donc, qu'est-ce qu'on voit déjà? On voit que c'est un pluriel. C'est les livres, les livres. Donc, déjà, on voit le pluriel et on voit le fait que c'est prévu comme des livres. Alors, de fait, si on réfléchit à l'histoire de la rédaction, au début, au moment où les textes les plus anciens ont été écrits, les livres, sous la forme qu'on en a aujourd'hui, n'existaient pas. C'était des rouleaux, c'était, voilà, sous d'autres formes. Maintenant, on a pris ce terme plus générique, les Bibles. Et donc la Bible, on va garder le singulier, la Bible, mais entendons bien que c'est toujours un pluriel. C'est donc un recueil, qui est un ensemble de livres qui est écrit sur presque 1000 ans. C'est écrit sur un temps très long. Les textes les plus anciens, probablement 8e, 9e siècle, avant notre ère, pas les livres, hein. Il n'y a pas de livre entièrement formé, mais il y a des textes témoins de cette... Enfin, probablement rédigés à cette époque-là, 8e au moins, mais peut-être plus pour certains, plus anciens, jusqu'aux fins du 1er siècle de notre ère pour le Nouveau Testament, début du 2e pour certains livres du Nouveau Testament. Donc, en fait, quasiment presque 1000 ans en tout. Donc c'est un ensemble de livres qui est organisé en bibliothèque. Une bibliothèque avec, vous le savez, deux grandes parties, ce qu'on appelle l'Ancien Testament ou Premier Testament et le Nouveau Testament. Donc parfois on entend dire Premier Testament au lieu de Ancien, parce que le risque, et malheureusement cela a eu lieu dans l'histoire, c'est de dévaloriser le mot ancien, pour dire c'était avant, maintenant on a beaucoup mieux, on n'a plus besoin de l'ancien. Donc ça, c'est pour éviter ce risque, certains ont proposé de nommer cette première partie de la Bible Premier Testament. Il m'arrivera d'employer l'un ou l'autre. Habituellement, on parle plutôt de l'Ancien Testament, mais bien évidemment en précisant que le mot ancien n'a rien de péjoratif et n'évoque en rien quelque chose de caduque. Bien au contraire, c'est une partie de la Bible qui est absolument indispensable, d'abord pour la vie et la foi en général, et notamment, entre autres, pour comprendre le Nouveau Testament. Donc il ne s'agira pas, à travers l'appellation ancien, de dévaloriser, bien au contraire. Ancien au sens des antiquaires. Plus un meuble est ancien, plus il a de la valeur. Voilà. Mais ce n'est pas de l'antiquaire simplement au sens que c'est des livres qui ne sont que du passé. C'est des livres qui sont toujours interprétés, actualisés, lus, commentés, et donc toujours actuels, et d'une certaine manière, des textes toujours vivants. Donc, j'ai un peu commenté le mot « ancien », on pourrait commenter le mot « nouveau », d'ailleurs, avec les mêmes questions. Mais peut-être on peut passer par le mot « testament », parce que vous voyez, on est passé de « ta biblia », les livres, à « ancien » et « nouveau testament ». Alors, qu'est-ce qu'on dit quand on dit «
testament » ? D'où ça vient ? Parce que au sens strict,
juridique, un testament, c'est quand quelqu'un est mort. Donc c'est un peu embêtant, parce que est-ce que ça veut dire que c'est des écrits qui sont là après la mort de Jésus, de Dieu ? Vous voyez, c'est un peu compliqué. Donc on va essayer de revenir un peu en amont pour comprendre l'usage de ce, enfin le sens de ce mot qui est employé souvent pour parler de la Bible. Alors, le mot testament est employé pour rendre le mot hébreu berit. Berit en hébreu, ça veut dire l'alliance. Alliance. En grec, quand on a voulu traduire la Bible en grec ou traduire le mot alliance, en grec ça se dit diatheke. Non, je me trompe, c'est pas un accent dans ce sens-là. C'est des accents dans ce sens-là. Je ne suis pas très calée en accent. Mais je crois que c'est ça. Bon. Alors, le mot diatheke a essayé, mais vous savez, c'est difficile de traduire d'une langue à l'autre, parce que c'est traduire d'un univers culturel à l'autre. Donc, les mailles du filet ne se superposent pas toujours très bien. Donc, en grec, cela est devenu diatheke, qui évoque un accord, un pacte. Accord, pacte. Donc là, on rejoint le mot alliance, berit. Mais ça traduit aussi une disposition testamentaire, aussi. Du coup, le latin, qui a traduit le grec, a repris cet aspect de disposition testamentaire et a proposé testamentum. Mais au départ, le sens le plus, comment dire, original, en tout cas celui qu'il faut entendre dans l'appellation Ancien et Nouveau Testament, c'est le mot alliance. C'est ça qui porte ces écrits. Voilà. Et le mot alliance insiste sur la relation que Dieu a voulu instaurer entre lui et l'humanité. Le thème de l'alliance, c'est un des thèmes, je pourrais presque dire, c'est le thème premier de l'Ancien Testament. Alors après, il en comporte beaucoup d'autres. Un Dieu qui entre en relation avec son peuple, qui sauve, qui aime. Voilà, l'alliance, ça recouvre beaucoup de choses qu'on ira explorer au fur et à mesure. Mais le mot alliance, c'est un des mots qu'on suivra dans beaucoup des corpus qu'on lira. Par exemple, la première fois où est employé le mot alliance dans la Bible, est-ce que vous savez à quel... avec quel... Noé. Très bien. Le premier avec qui Dieu a fait alliance, c'est Noé. Et à travers lui, toute la création, tout le cosmos. Donc le mot alliance, ça renvoie d'abord à une alliance cosmique, universelle. Ensuite, ça va être Abraham, et ensuite Moïse et le peuple d'Israël, ou le peuple d'Israël autour de Moïse. Donc vous voyez, on ira voir ces différentes étapes de cette histoire d'alliance entre Dieu et son peuple, mais qui commence par une alliance ouverte à tous et à toute la création.
Universelle.
Oui, universelle, et en plus tout le cosmos. Donc le mot alliance, un des mots clés. Mais on ira voir aussi comment les prophètes ont parlé de l'alliance. L'alliance que Dieu a passée avec son peuple, la fidélité de Dieu, l'infidélité du peuple, suivie de conséquences, la nouvelle alliance dont parle Jérémie, vous savez l'expression nouvelle alliance, on peut traduire par Nouveau Testament, si vous suivez cette logique, elle est employée la première fois dans le livre de Jérémie, dans l'Ancien Testament. Donc cette annonce de la Nouvelle Alliance, on ira lire ce que Jérémie en dit. Donc vous voyez que le mot alliance, on ne peut pas avoir un dictionnaire qui dit alliance égale deux points, c'est ça. Bah, ça dépend. Avec Noé, avec Abraham, avec Moïse, avec Jérémie, c'est pas tout à fait... c'est la même réalité, bien évidemment, c'est le même mystère de Dieu avec l'humanité. Mais ça se décline avec des nuances différentes selon les contextes, selon les époques, selon... voilà. Donc, il faut entendre à la fois ce qui est commun, bien évidemment, il y a quelque chose de commun, mais également toutes les nuances, et peut-être qu'on pourra... On aura le temps de... On sera attentif à repérer ces différents sens. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est dans ces deux dimensions, Ancien et Nouveau Testament, c'est de voir. Et on aura la même chose dans les... à l'intérieur de l'Ancien comme du Nouveau Testament, à la fois la diversité des livres, on va parler de la diversité, il y a une grande diversité, et en même temps, il y a une unité. Et il faut essayer de tenir les deux. Ce n'est pas une diversité où chaque livre, chaque courant théologique, chaque écrit, chaque auteur parle dans son sens sans lien avec les autres. Ce n'est pas ça. Il y a une unité. Et en même temps, il y a ce respect de la diversité que l'on a déjà au sein de la Bible. Alors, si l'on regarde maintenant ce qu'on appelle le canon. Le canon, c'est la liste des livres retenus par les traditions religieuses, en l'occurrence le judaïsme d'abord, puis le christianisme. Alors, quand je parle d'Ancien Testament, l'Ancien Testament en hébreu, pour les juifs, c'est leurs écritures, c'est la Bible juive, la Bible hébraïque. Donc, quand on parle de l'Ancien Testament, on peut aussi dire la Bible juive, la Bible hébraïque. Puisque Jésus était juif, et donc c'est par lui que ses disciples peuvent s'inscrire dans cette histoire d'alliance que Dieu a passée avec Israël. Je vais vous donner... Alors, la Torah, on va y revenir tout de suite, avec un document sur les deux canons. Alors, canon, la feuille permettra de le préciser, ce dont il s'agit. Est-ce que tout le monde a eu la feuille de présence? C'est bon, vous l'avez tous eu? Merci. Désolée, j'ai vu qu'il y avait des feuilles de couleur qui s'étaient mixées. C'est peut-être un petit peu plus technique, entre guillemets, aujourd'hui. Dès Genèse, Exode, on rentrera plus dans le sens, dans les textes, dans la saveur. Vous voyez, aujourd'hui, on en reste encore un petit peu à des généralités, même si on va étudier un texte quand même. Voilà. Mais c'est pour avoir quelques repères. Et puis, s'il y a des choses qui ne sont pas très claires, ça pourra s'éclaircir aussi au fur et à mesure de l'année. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais en gros, présenter les deux canons de ce qu'on pourrait appeler le Premier Testament. D'abord, le mot canon, vous avez l'explication, ça vient d'un mot grec qui désigne une règle, une norme. Il a été employé par les chrétiens pour désigner la liste des livres normatifs pour la foi et la vie. C'est des livres qui sont reconnus comme étant des paroles inspirées. Tout à l'heure, quelqu'un, à partir de la photo, disait « on voit l'Esprit Saint ». Et effectivement, dans les traditions chrétiennes et juives, dans les traditions croyantes, que ce soit dans le judaïsme ou dans le christianisme, ces écrits sont considérés comme inspirés. En tout cas, c'est très clairement rappelé, par exemple, dans les textes Dei Verbum, du Concile, mais depuis toujours. Depuis toujours, et ça a toujours été affirmé, que dans une lecture croyante, dans une approche croyante des Écritures, le croyant considère ces textes comme inspirés par Dieu, par l'Esprit-Saint, inspirés. Après, il faut aussi tenir compte, nous dit Dei Verbum, que ces textes sont écrits par des auteurs humains qui sont plongés dans des contextes historiques, culturels, linguistiques, qui sont les leurs. Vous voyez, c'est pas non plus... Il faut tenir les deux. C'est à la fois une œuvre bien humaine au sens de... dans une culture, une époque, avec un vocabulaire, une langue, etc. Et en même temps, des textes inspirés. Il faut tenir les deux, et Dei Verbum et toute la grande tradition de l'Église nous invite à tenir les deux. Je reviens aux deux canons. Donc... en bas, vous avez un petit carré sur les listes protestantes et listes catholiques qui permet de comprendre pourquoi dans une Bible protestante, alors la Tobe c'est différent parce que la Tobe intègre tous les livres connus par les églises chrétiennes. Mais dans une Bible comme la Nouvelle Bible Second, certains livres, on va voir lesquels maintenant, n'y sont pas parce qu'ils ne sont pas considérés comme faisant partie du canon. Parce qu'ils ne sont pas considérés par les juifs comme faisant partie du canon juif. Du coup, les églises issues de la Réforme ne les ont pas intégrés non plus. Mais allons plutôt voir ce qui est commun. Ce qui est commun, c'est d'abord les cinq premiers livres. Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. On peut l'appeler Torah ou loi, parce que le mot hébreu, c'est Torah, ou bien Pentateuch. Pentateuch, ça veut dire cinq étuis, puisqu'il y a cinq...
C'est cinq quoi ?
Étuis.
Cinq étuis.
Étuis, oui. Voilà. Le mot Torah, en hébreu, qu'on traduit par loi, il ne faut pas l'entendre dans le sens trop fermé d'une simple législation. C'est Torah au sens large, c'est-à-dire enseignement. Dans le mot Torah, il y a une racine, Yara, qui veut dire direction, comme une flèche qu'on envoie dans une direction. Donc la Torah, c'est un enseignement qui donne une direction pour vivre. Ce n'est pas seulement une législation. Ça, c'est important, parce que trop souvent, on a l'habitude d'opposer la loi et l'amour. La loi, c'est que des principes législatifs stricts, et l'amour, c'est beaucoup mieux. Bon, vous voyez, on travaille un peu ça encore, malheureusement. Il faut entendre que la Torah, au sens où les Juifs l'entendent, c'est un enseignement qui donne un horizon de sens et qui donne aussi une indication de vie, des indications de vie. Donc, au sens strict, la Torah, ce sont les cinq premiers livres. Vous voyez que dans le canon hébreu ou dans le canon grec, il y a les cinq premiers livres, la première partie de la Bible est la même. Après, ça change, mais les cinq premiers livres sont les mêmes. Après, pour répondre, c'est Mireille votre nom, hein?
Oui.
Voilà, pour répondre à votre question, parfois on entend, la Torah, elle peut avoir plusieurs sens. Ça peut être soit les cinq premiers livres,
oui.
Soit l'ensemble de la Bible hébraïque, un peu par extension,
oui.
Voilà.
Oui.
Soit parfois la Torah au sens vraiment plus législatif. Il y a différentes dimensions.
D'accord.
Mais il est habituel plutôt de nommer les cinq premiers livres la Torah,
d'accord.
Même si les autres sens se retrouvent aussi. Donc ça, c'est pareil dans les deux canons. Alors j'ai oublié de préciser, canon hébreu, canon grec. Canon hébreu, c'est le canon, pour ce qui est de l'Ancien Testament, bien évidemment, sur lequel nos frères juifs s'appuient. Pour eux, ce sont leurs écritures. Et le canon grec, c'est que c'est la version de la Bible que l'on a en grec, qui s'appelle la Septante. La Septante, c'est l'Ancien Testament traduit en grec au IIIe siècle avant notre ère. Avant notre ère. Et c'est la Bible, notamment, c'est probablement dans la version grecque, donc dans la Septante, que les auteurs du Nouveau Testament et les fidèles, les disciples de Jésus lisaient les Écritures, probablement à partir de la version de la Septante. Pourquoi Septante ? Ouais, non.
Et pourquoi ce besoin de traduire ? Parce que le grec était un peu l'espéranto de l'époque,
comme oui, aujourd'hui. C'est ça, c'était un peu la langue courante hein, de l'époque. Et puis aussi, c'était une période où il y avait déjà une diaspora juive qui a commencé autour de l'exil à Babylone, mais il y a eu des communautés juives dans d'autres lieux du bassin méditerranéen, notamment à Alexandrie, notamment dans d'autres lieux où la langue était le grec. Et donc, il a fallu traduire. La légende dit qu'il y a eu 70, d'où son nom, 70 traducteurs qui ont traduit chacun dans leur coin et ils sont arrivés à la même traduction. Mais c'est une légende pour dire la validité et la reconnaissance qui a été faite de cette traduction. Voilà, donc...
Ouais. Je voudrais savoir sur le canon hébreu, est-ce qu'à l'époque de Jésus, il existait déjà, il était bien composé ou pas ?
Il existait ?
Il existait déjà, le canon hébreu, il était déjà composé comme un livre.
Alors, c'est une très bonne question, merci. Et pour ça, on peut aller lire dans l'évangile de Luc, au chapitre 24. Que dit Jésus quand il rencontre les disciples d'Emmaüs ? Alors, c'est une très bonne introduction au canon. Merci de votre question. Que dit Jésus quand il est en dialogue avec les disciples d'Emmaüs après sa résurrection ? Il leur dit : voici les paroles que je vous ai adressées quand j'étais encore avec vous. Il faut que s'accomplisse tout ce qui a été écrit de moi dans la loi de Moïse, les prophètes et les psaumes. Et un peu plus tard, à un autre endroit, c'est les écrits. En tout cas, cette distinction du canon hébreu en trois parties, loi, prophète, écrit ou psaume, c'est probablement déjà du temps de Jésus, puisque avec ses disciples d'Emmaüs, il redit ces trois grandes parties. Toute la Bible, la Torah, les prophètes et les écrits parlent de moi. J'accomplis tout ce qui est dans ce texte-là. Donc cette distinction existait déjà du temps de Jésus, puisqu'il en parle aux disciples d'Emmaüs, de cette façon.
Ce n'était que oral à l'époque.
Comment ?
Ce n'était que de tradition orale à l'époque.
Qu'est-ce qui était de tradition orale ?
Il n'y avait pas un livre qui circule, écrit.
Ah ben si, il y avait des rouleaux qui circulaient. Il n'y avait pas des livres, parce que la forme livre n'existait pas. Mais il y avait des rouleaux.
Est-ce qu'il y avait une référence ? C'était à chaque fois le même ?
Ah ben oui, il y avait des écrits reconnus. Quand Jésus, la synagogue de Nazareth, se lève pour aller lire le rouleau, vous avez ça au chapitre 4 de l'évangile de Luc, on lui remet le rouleau du prophète Isaïe et il lit un passage du prophète Isaïe. Donc le rouleau était bel et bien écrit, déposé dans la synagogue pour que quelqu'un puisse le lire. Si, si.
Oui. Et certains avaient pu le copier éventuellement pour qu'il soit disponible ailleurs.
Ben, ils étaient copiés, ces livres, oui, ils étaient copiés.
C'est ce qui s'est passé avec, je ne comprends pas, avec Qumran,
parce oui, c'est ça.
Que Qumran, il y a des écrits qui datent, on dit, ouais. Du 1er siècle, donc c'était, et voilà.
C'est ça. Oui, oui, Qumran, il y a des écrits, notamment, le rouleau d'Isaïe a été retrouvé quasiment en entier à Qumran. C'est à peu près le seul. Et donc, voilà, on peut penser, alors si ces questions-là vous intéressent, vous savez que mon collègue Alexis Pido fait un cours sur Bible et archéologie, qui commence, je crois, en novembre. À voir, vous regarderez dans le programme. Mais il va aborder bien toutes ces questions-là, notamment Qumran, et voilà. Donc ça peut être une manière de découvrir. En gros, si vous voulez, c'est important de remarquer plusieurs choses. Si je prends le canon hébreu, d'abord la Torah, ensuite les prophètes. Les prophètes, mais au sens large, parce que vous avez vu, c'est pas seulement Isaïe, Jérémie, Ézéchiel, ceux qu'on connaît, c'est aussi ce qu'on appelle, nous, les livres historiques. Josué, Juges, les livres de Samuel et des rois qui racontent la période de la monarchie. Tout ça sont considérés comme des prophètes. Et les écrits, c'est les psaumes et les livres de sagesse et les rouleaux, en gros. Alors que dans le canon grec, dont s'inspirent les Bibles dans les églises catholiques et orthodoxes, Là, la séparation se fait autrement. Il y a d'abord les livres historiques, donc qui racontent l'installation en terre de Canaan, Josué, Juge, Ruth, Samuel et Roi, et Chronique. Bon, les livres poétiques, en gros, les psaumes, les livres de sagesse et le Cantique des Cantiques. Et puis les livres prophétiques, mais les prophètes écrivains. Vous voyez que la différence principale, c'est que les prophètes, tels qu'ils sont présentés là, ils se dispatchent en deux ensembles, les écrits historiques et les écrits prophétiques. Ça va ou c'est un peu trop complexe? Ça va? Bon, on n'est pas obligé de tout... On va avancer. On va avancer. Parce que c'est peut-être plus difficile. Je vais vous donner quelques points de repère de l'histoire d'Israël. Et ensuite, il y aura encore juste un point et puis on fera la pause. Alors, quelques points de repère de l'histoire d'Israël. 1000 ans d'histoire dans l'Ancien Testament. Alors, voilà. Je vous donne ici. J'ai fait cette photocopie à partir du livre de Billon Gruson. Non, pas ça. Il y est ? Ah, non, je vais garder le tableau blanc. Alors, deux tableaux que je vous donne pour le Nouveau Testament, pour l'histoire, pardon. Alors, où est-ce qu'il est l'autre ? Voilà, je vous donne d'abord une feuille saumon qui est tout simple. Mais toutes ces grandes étapes, on les reprendra au fur et à mesure de différents samedis. Hein. Ah, je n'avais pas vu que j'étais là. Ah, ça, c'est bien. Merci. Très bien. Il y a le même truc, c'est le même. Hein. C'est le même feuille. Et donc, vous avez une feuille à 4 et une feuille à 3. On va commencer par la feuille à 4. Vous n'en avez pas assez ? Tenez. Alors, ce tableau, il permet de repérer, je vais d'abord prendre la petite feuille à 4, de repérer les étapes principale de l'histoire d'Israël, du peuple d'Israël, tel que l'Ancien Testament le présente. Mais c'est selon... Il manque une feuille ? Ah, celle-là. D'accord. Ça va ? Alors... On ne rentre pas tout de suite, peut-être qu'on le fera quand on parlera des prophètes ou des rois, mais pour l'instant, on ne rentre pas tout de suite dans la question de est-ce que le texte biblique nous rend compte avec, comment dire, précision et de manière factuelle de ce qui s'est passé. Je ne rentre pas dans cette question pour l'instant. Je regarde les principaux événements de l'histoire d'Israël, telle que la Bible en rend compte. D'accord ? Donc, au début, vous avez les patriarches, Abraham, Isaac, Jacob, dont aujourd'hui, on ne cherche plus à faire une datation précise de patriarches, mais, en gros, comme c'est avant l'Exode, voilà, on dit avant le 13e siècle, avant notre ère. Ensuite, il y a tout ce qui est autour de l'Exode, Moïse, qui fait sortir le peuple d'Israël d'Égypte, qui est envoyé par Dieu pour les libérer. Puis l'installation dans la terre de Canaan, qui est la terre promise par Dieu. Puis l'organisation par tribu et avec des juges qui sont des gouverneurs, en fait. Ce n'est pas des rois, ce n'est pas des juges au sens actuel, ce sont plutôt des gouverneurs. L'Exode autour de 1200. La période royale commence autour de l'an 1000, à peu près, vous voyez, un petit peu avant, et va continuer jusqu'à l'exil. Mais la grande période du royaume Israël-Juda uni, c'est Saül, David, Salomon, c'est autour de l'an 1000. Après, il y a deux royaumes, le royaume du nord et le royaume du sud. Ensuite, il y a l'exil à Babylone, 6e siècle. Ça, c'est un temps majeur. L'exil à Babylone, c'est un creuset, c'est une période extrêmement difficile. C'est une grande épreuve pour le peuple qui est en grande partie exilé à Babylone. Mais c'est aussi le creuset de la rédaction d'une très grande partie de la Bible. Ça, c'est important. Et entre l'exil et notre ère, il y a trois grands empires qui sont l'empire perse, les Grecs et les Romains. Trois grands temps d'occupation par des empires différents. Et donc, quand Jésus arrive, on le sait, c'est l'occupant romain. Si on prend maintenant ce grand tableau à trois, vous retrouvez les mêmes éléments, heureusement, j'allais dire, mais disposés un peu autrement. D'abord, disposés sous forme de tableau horizontal. Et puis, ça, c'est dans le livre de Billon-Greuzon. Vous voyez, c'est intéressant parce qu'il met des références extérieur, par exemple, en dehors d'Israël, qu'est-ce qui se passe? Les Celtes en Gaule en 900, Confucius, Socrate, Platon, Aristote, etc. Donc c'est intéressant de situer par rapport à l'histoire universelle. Et puis, il y a aussi des indications sur la façon dont les livres ont été écrits. Par exemple, si vous prenez le Pentateuque, il est dans cette colonne-là, vous voyez, dans la deuxième page. Il est la version finale du Pentateuque tel qu'on le connaît, date du retour d'exil. Mais il est tissé de tas de traditions écrites et orales plus anciennes. C'est pour ça qu'il y a tous les pointillés qui convergent vers lui. D'accord ? C'est un temps long, le temps d'écriture de la Bible. Ça ne s'est pas écrit en une année, le soir au coin du feu. C'est un temps d'élaboration extrêmement long. Et ça, c'est très riche pour nous, parce que ça laisse entendre justement cette maturation, comment le peuple comprend petit à petit son histoire. Et dans le texte biblique, on n'a pas seulement les événements qui sont racontés, on a le sens que le peuple a vu après coup des événements qu'il a traversés. Vous voyez, on a le sens de l'histoire en plus de l'histoire. Donc, c'est quand même bien. Alors, ce n'est pas l'histoire au sens de la factualité avec les critères scientifiques d'aujourd'hui. On est d'accord. Mais c'est quand même... C'est l'approche de l'histoire qu'il y avait dans l'Antiquité. Elle est compatible avec ce qui se faisait ailleurs. Dans les écrits... chargé de témoigner de l'histoire. Alors, pour l'instant, par exemple, peut-être que certains découvrent la période de l'exil. Alors, je ne vais pas entrer plus avant parce qu'on va s'y perdre, mais quand on parlera des prophètes, bien évidemment, on parlera de l'exil, parce que les prophètes ont eu une influence majeure avant, pendant et après l'exil. Donc, ça sera l'occasion de parler un peu plus précisément de ce qu'a été l'exil, de ce qui a été vécu, de ce qui a été pensé, écrit, réfléchi, etc. Donc je ne rentre pas dans tous les détails maintenant. Là, c'est plutôt une présentation d'ensemble. Est-ce que, à partir de ces repères extrêmement rapidement présentés, mais aussi de ces documents, est-ce que vous avez des questions ? Ouais, ça va.
C'est très
bon. Je trouve que les deux documents sont complémentaires, il me semble. Ils ne sont pas présentés de la même façon, mais ils se complètent.
dates très précises, 933, 722, c'est qu'on a trouvé des espèces
oui. historiques. Oui, c'est ça. Par exemple, oui, tout à fait. Pour l'exil, on peut le dater par des sources extra-bibliques. De façon très précise, l'exil, ça s'est très bien renseigné, très bien documenté. Le 722 également, hein, parce que ça, c'est quelque chose, la prise par les Assyriens qui est également documentée à l'extérieur de la Bible, donc on peut valider quand il y a d'autres sources. Voilà. Par contre, tout ce qu'il y a avant, alors, la période des rois, à la fois, on peut le dater en gros, c'est peut-être moins précis, mais il y a quand même des stèles qui font référence à la maison de David. Alors, probablement, c'est la maison de David, le roi d'Israël. Certains discutent en disant, pas forcément, mais probablement quand même. Et donc, plus on remonte dans le temps, moins il y a de sources extra-bibliques. Donc, l'Exode, par exemple, il y a une mention d'un certain Moïse, effectivement, où c'est un nom qui approche, mais c'est plus difficile à dater. Par contre, 722 et l'exil, oui, ça, c'est des dates que l'on peut valider par des sources extra-bibliques.
Combien de temps a duré l'exil ?
Alors, l'exil a duré entre... Alors, il y a eu deux départs en exil. Vous voyez, il n'y a qu'une date, là, mais il y a en fait 597... 587, l'exil, la déportation s'est faite en deux fois. Et alors, pas de l'ensemble du peuple, hein, mais des élites du peuple et de la majeure partie de... Enfin, la majeure partie vivant à Jérusalem. Et ils sont restés 60 ans pour le premier exil, 50 ans pour le second. C'est-à-dire, ils sont revenus en 537. Mais ils ne sont pas tous revenus. Il y en a qui sont restés. C'est le début de la diaspora. Mais l'exil en tant que tel a duré 50 ans, à peu près.
Et quand on dit juif ou israélite,
oui.
C'est une notion de religion, d'ethnie,
ouais.
De nationalité.
Ouais. Alors, je peux vous répondre par rapport à la Bible. Le mot juif, on pense qu'il apparaît, enfin, la notion de judaïté apparaît après l'exil. Avant, on parle de fils d'Israël. Même pas tellement d'hébreux. Moi, je ne suis pas très à l'aise avec l'appellation hébreu. Hébreu, c'est plutôt les gens extérieurs au peuple d'Israël qui appellent les fils d'Israël hébreux. Donc, je sais que ça s'emploie beaucoup, mais je pense que c'est mieux de faire comme le texte biblique et de parler de fils d'Israël. Et donc, ou de peuple d'Israël. Et ça, c'est une appellation plus ancienne. Le mot juif apparaît après l'exil. Après, pour votre question, je suppose qu'elle déborde un peu le texte biblique lui-même, c'est ça. Je pense que dans le contexte du Proche-Orient ancien, en tout cas, et jusqu'au Nouveau Testament, il faut entendre que ce n'est pas le même contexte que nous. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de distinction entre l'appartenance à un peuple et l'appartenance à une religion. Il n'y a pas, par exemple, l'athéisme, la laïcité, ça n'a pas de sens dans le Proche-Orient ancien. Donc, on fait partie d'une communauté, d'un peuple, et Israël a fait alliance avec le Dieu d'Israël, avec le Seigneur, le tétragramme, le Seigneur. Voilà. Donc, aujourd'hui, l'appartenance au judaïsme, c'est une autre très, très vaste question à laquelle je me garderai bien de répondre. Mais non, mais même les Juifs ont du mal à dire qu'elles sont officiellement, selon la loi juive, et juif, celui qui est né d'une mère juive. Mais il peut y avoir des gens qui sont nés d'une mère juive et qui ne se reconnaissent pas juifs. Donc, c'est compliqué. Est-ce que c'est un donné objectif ? Enfin, moi, je ne rentre pas là-dedans. Il y a des essais, des romans, des articles très complets là-dessus. Donc, je ne suis pas née. Je n'ai pas le temps et en plus, je ne suis pas assez calée pour répondre à cette question-là.
Il y a combien une notion d'exclusivité ?
Alors, on reviendra sur l'élection. L'élection, tout à l'heure, j'ai parlé du mot alliance, que c'est le mot principal, mais le mot élection, c'est effectivement le choix de Dieu pour ce peuple. Donc, on verra, est-ce que c'est une exclusivité ou pas ? On verra ça quand on étudiera l'appel d'Abraham. Dieu appelle Abraham et à sa suite le peuple qui descend de lui. Et on verra quelle est cette élection et quelle est la mission qui est donnée dans l'élection. Et on verra, en gros, je vous fais un tout petit spoil avant l'heure, c'est une mission pour tous. le choix d'Israël, c'est un choix d'un peuple en vue de tous. C'est pas un peuple à l'exclusion des autres, c'est un peuple pour les autres. Ça, c'est très très clair dans le texte de la Genèse, et beaucoup de juifs vous le diraient ainsi. C'est pas un exclusivisme ou une exclusion des autres, c'est une élection pour une mission pour tous. On y reviendra quand on parlera d'Abraham. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur l'histoire ?
Et les destructions de temple. La première exil, c'est Babylone, oui. Lorsqu'il y a la destruction du temple de Salomon.
Oui.
Oui. Et donc le deuxième, c'est après, en 70, après les Romains. D'accord.
Oui. Oui, alors après, il y a eu la reconstruction
d'un second temple.
D'un temple, je pense qu'on en parlait un peu au moment des prophètes, parce qu'il y a eu des prophètes qui se sont beaucoup intéressés à la reconstruction du temple au retour d'exil. Ouais.
Parce que j'avais lu que lorsqu'il y a eu l'exil à Babylone, quand ils sont revenus, il y avait plus de temple, et le fait de se reconnaître juif, ça remplaçait un peu.
Oui, bien sûr. Alors le temple d'exil, il est extrêmement important parce que. C'est ce temps où tous les grands repères se perdent. Il n'y a plus le temple, il n'y a plus la ville, il n'y a plus le roi. Tout ce qui fait les institutions, les grands repères de la foi d'Israël ne sont plus là. Et donc, quand on a perdu tous les repères extérieurs, comment on se reconstruit à partir notamment de la parole, de la prière à la synagogue et de la parole de Dieu. Donc, et ça, on va le voir dans le texte juste après la pause. On va lire un texte de Néhémie qui parle de la lecture de la Torah qui va permettre au peuple de se reconstruire après l'exil. Ce n'est pas la lecture de la Bible que le peuple se reconstruit quand il a perdu tous ses repères. Donc vous voyez aussi l'actualisation qu'on peut faire. Sur l'histoire, ça va ? Un dernier point, et après je m'arrête pour la pause. Un dernier point que je voulais aborder avec vous, c'est que dans la Bible, on a vu la diversité des livres, et en même temps l'unité de ces livres qui sont des multiples reflets du dessein divin pour l'humanité, pour le monde, pour l'humanité. Avec différents reflets, donc il y a une unité et une diversité de livres. Il y a aussi une diversité de styles littéraires. Ça, c'est un point que je voulais aborder, mais on y reviendra au fur et à mesure de l'étude des différents corpus. Mais vous le savez, il y a des récits, c'est la forme principale. C'est-à-dire, la Bible, c'est pas un livre théorique qui donne des consignes morales, des discours, ou des exposés dogmatiques. La Bible, c'est d'abord un livre principalement qui raconte une histoire, des histoires. La grande histoire du peuple d'Israël pour ce qui est de l'Ancien Testament, de la communauté de Jésus et de la communauté des chrétiens pour ce qui est du Nouveau Testament. La grande histoire. À l'intérieur de cette grande histoire, des petites histoires, entre guillemets, en tout cas des histoires plus singulières autour de grands personnages. Je pense à Abraham, David, Moïse, Ruth, Esther, puisqu'il y a aussi des femmes dans la Bible, ne l'oublions pas. Donc, des histoires singulières au sein d'une grande histoire. Ça, c'est intéressant de voir comment la Bible invite à lire à la fois l'histoire d'un peuple ou d'une communauté, et à la fois l'histoire singulière de tel ou tel personnage. Les deux se tissant, se mêlant. En tout cas, des récits, ça c'est très important. Des narrations, c'est-à-dire les narrations, c'est pas d'abord un exposé théorique, c'est d'abord rendre compte du réel, de la vie, de ce qui s'est passé, avec les imprévus, avec ce qui était parfois annoncé, prévu, mais aussi c'est relire l'histoire. Relire, comprendre ce qui s'est passé et en tirer un enseignement, un sens, un horizon pour tous, plus large. Voyez, mais c'est toujours à partir d'une expérience, d'une situation, d'une vie. Principalement des récits. La forme narrative, c'est très important et c'est vraiment à l'époque, la Bible et fait figure très singulière dans la littérature du Proche-Orient ancien, qui sont plutôt en général des récits mythologiques. La Bible, alors il y a quelques récits de type mythologique, mais je reviendrai sur ce mot la prochaine fois, dans les récits fondateurs de Genèse 11. Mais il faut mettre des guillemets à ce mot-là. Mais à part ça, ce ne sont pas des récits à teneur mythologique comme les autres traditions du Proche-Orient ancien. Ce sont des récits qui font écho à des événements, à des vies, avec de l'imprévu, avec quelque chose qui surgit de nouveau, et comment on en tient compte, et comment ça fait évoluer, progresser, réfléchir. Voilà. Donc cette dimension narrative, elle est extrêmement importante. À partir de cela, il y a d'autres styles littéraires. Hein. Il y a le style des prophéties. Il y a des prophéties dans la Bible, on y reviendra, des oracles. Il y a des poèmes, vous en connaissez ? Les psaumes sont un peu, d'une certaine façon, des poèmes. Le cantique des cantiques. Le cantique des cantiques, c'est un grand poème. Voilà. Il y a parfois des contes aussi dans la Bible. Alors, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quelques-uns qui sont présentés comme tels. Hein. Dans le livre des Juges, chapitre 9, vous avez un conte, par exemple. Vous avez des prières, les psaumes, les hymnes, pour ce qui est du Nouveau Testament, notamment.
La référence du conte dans les Juges, c'est...
Juges 9. C'est la fable des arbres. C'est très beau. Donc, vous avez des prières, je l'ai dit. Vous avez également des lois. Il y a des lois. Ce n'est pas forcément quelque chose qu'on aime beaucoup, mais c'est parfois très intéressant, les lois de la Bible, parce que, vous savez, les lois, c'est aussi une manière de comprendre comment une époque pensait, vivait, etc. Vous avez la littérature de sagesse, les livres de sagesse, avec, par exemple, des proverbes, des paraboles, parfois des discours un peu de sagesse, voilà. Et puis, vous avez un autre style qui se trouve déjà dans l'Ancien Testament et bien évidemment dans le Nouveau, qui est les apocalypses. Les apocalypses. Alors, on ne parlera pas du livre de l'Apocalypse cette année, puisqu'il est dans le Nouveau Testament. J'évoquerai, mais assez rapidement, quelques textes de nature apocalyptique dans l'Ancien Testament et principalement le livre de Daniel. Apocalypse, ça ne veut pas dire catastrophe. Apocalypse, c'est étymologiquement lever le voile. Lever le voile, dévoiler en fait, dévoiler. Révélé. En anglais, le livre de l'Apocalypse s'appelle Revelation. Et il y a aussi quelques discours dans la Bible, mais ce n'est pas un style majeur. Est-ce que sur les styles littéraires, sur tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, oui ?
Les épîtres,
ah oui, pardon, j'oublie les lettres, merci. Alors, en fait, je ne les ai pas évoquées parce qu'il n'y en a quasiment pas dans l'Ancien Testament. Il y en a un peu. Dans le livre de Jérémie, il y a une lettre, par exemple. Il y en a quelques-unes, mais pas beaucoup. Mais effectivement, vous avez raison, merci. Les lettres dans le Nouveau Testament, c'est évidemment un style majeur, puisque Paul, Pierre, Jacques et Jean ont écrit des lettres ou épîtres, et que c'est un style tout à fait particulier, qui n'est pas que du récit, pas que de l'exhortation, du discours, de loi. C'est un style qui a toute sa place. Merci de la précision. Ça va, vous avez encore le courage pour la pause, ça va? Je vais aller voir, j'espère que peut-être on nous a mis de côté un peu de café, je vais vous montrer où aller le chercher. On va prendre le café, si vous n'avez pas trop froid, si vous avez une petite laine peut-être, plutôt dans la coursive parce qu'il faut aujourd'hui, ça va être compliqué d'aller dans la salle du fond. Ou alors, on vient le boire ici s'il fait trop froid dehors. Et la salle qui est à côté, il y a un cours. Donc, nous, on va prendre le café de l'autre côté, mais en faisant pas trop de bruit. C'est aussi pour ça qu'on... S'il ne fait pas trop froid, on va dans la coursive. Je vais éteindre l'enregistrement, ça sera mieux.